Hervé Gattegno, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse ce matin, on parle beaucoup du très jeune Premier ministre, mais vous avez choisi de commencer, vous, par un très vieil homme dont Libération publie le portrait.
Il a 95 ans, il s'appelle Dreyfus, prénom Charles, c'est le petit-fils du capitaine Alfred Dreyfus. Il porte une histoire et une mémoire infiniment précieuses en cette époque ténébreuse, écrit la journaliste Sophie Desdéserts qui l'interroge. Cette histoire, il ne la porte pas en bandoulière, même si tous les présidents depuis François Mitterrand l'ont approché. Mi-novembre, il s'est fondu dans la foule qui manifestait contre l'antisémitisme, loin des caméras et des politiques. Il reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir été là, tandis que le RN lui paradait en partie soudain défenseur des Juifs. Il se dit bouleversé par l'attaque du Hamas le 7 octobre, mais il frémit aussi devant les images de Gaza en ruine. Chaque jour de bombardement alimente l'antisémitisme, souffle-t-il.
Et il parle bien sûr de son aïeul, Alfred Dreyfus, qu'il a forcément bien connu.
Connu et aimé, écrit Libération, la photo du capitaine orne encore la bibliothèque. Arrêté en 1894, condamné, conspué, envoyé au bagne, innocenté en 1906, puis reparti au front pour la Grande Guerre. Alfred Dreyfus ne prononçait pas le mot antisémitisme, ni même celui de juif, se souvient son petit-fils, sauf dans une lettre où il a écrit « L'antisémitisme est toujours latent ». La suite a prouvé que l'antisémitisme peut aussi devenir une politique et même une barbarie. Libération rappelle que l'affaire Dreyfus a pesé dans la création de l'État d'Israël en 48. Charles Dreyfus, le petit-fils, se dit partisan d'une solution à deux États et il déplore la politique expansionniste du gouvernement israélien actuel. Il a élevé laïquement ses enfants et il dit « Mon pays à moi, c'est la France ».
On ne sait pas si l'affaire Dreyfus est évoquée dans les livres d'histoire en Russie, mais ce que Lacroix nous en apprend est assez stupéfiant.
Dans un pays où le président se veut historien en chef, les écoles sont devenues caisses de résonance de la propagande officielle, écrit le correspondant de Lacroix à Moscou. Le 14 décembre, Vladimir Poutine a dit publiquement « Ce ne sont pas les dirigeants qui gagnent les guerres, mais les écoliers et les prêtres ». Les nouveaux manuels d'histoire pour les grandes classes, c'est l'équivalent de notre première et de notre terminale, consacrent de longues pages aux deux décennies de présidence Poutine et d'épais chapitres à sa vision de la Seconde Guerre mondiale, dite « Grande Guerre patriotique », et qui sert de base idéologique aujourd'hui pour justifier l'invasion de l'Ukraine.
Et l'article décrit ce que Poutine appelle l'éducation patriotique des écoliers.
Chaque lundi matin, les enfants assistent au lever du drapeau et à l'hymne national. S'ensuit une heure de leçon par le professeur principal sur les choses importantes avec des guillemets. En clair, c'est du bourrage de crâne sur la pseudo-dénazification en cours en Ukraine, mais aussi le tri des déchets, l'aide aux anciens et la vie en famille, où il est bon que les filles sachent cuisiner le bortsch et prendre soin de leur mari. Les garçons, eux, doivent apprendre à tenir un marteau. À noter que dans les programmes, le mot goulag apparaît très peu et c'est pour vanter les mérites de l'industrialisation forcée à l'ère soviétique. Tout un programme, précisément.
Donc les garçons tiennent le marteau, mais sans la faucille.
Sans la
précision.
Faucille.
En France, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a lui aussi placé l'école en tête de ses priorités.
L'école et la jeunesse, dont il est la double incarnation, puisqu'il sort, on le sait, d'un passage éclair au ministère de l'Éducation et qu'il est donc le plus jeune Premier ministre de notre histoire. La carte jeune, titre Le Parisien, pour les dernières nouvelles d'Alsace, c'est l'atout jeune, et un coup de jeune à Matignon pour la Charente libre, Le Figaro, le qualifie de bon élève du macronisme et salue le pari audacieux de sa promotion. Avec quand même cette réserve, le nouveau Premier ministre a le visage souriant du succès, mais c'est sur le fond qu'il sera jugé, dit Le Figaro. De fait, l'Opinion et Le Parisien dressent la liste des 12 travaux qui attendent Gabriel Attal. La dette, le chômage, les européennes, j'en passe. L'Opinion place même dans la liste de ses défis réussir les Jeux Olympiques et sauver la planète. C'est en effet herculéen.
Et oui, et Martial Foucault parlait tout à l'heure de l'archange Gabriel. C'est vous dire, Gabriel Attal est aussi le premier chef de gouvernement non-énarque nommé par Emmanuel Macron. Et un point de sa biographie le singularise également, c'est son homosexualité.
Orientation sexuelle assumé que Gabriel Attal avait lui-même évoqué dans la presse en 2019 sans en faire un étendard depuis. Libération qui avait alors recueilli ses confidences parce qu'un livre dévoilait odieusement sa vie privée écrit aujourd'hui que sa promotion est le signe d'une France qui progresse. Si les journaux n'en parlent pas tous en présentant la biographie du Premier ministre, c'est peut-être moins l'effet d'une gêne que d'une banalisation. Le Point signale que Gabriel Attal a été paxé avec Stéphane Séjourné, probablement tête de liste des macronistes pour les européennes. Et le Figaro raconte que le même Gabriel Attal s'était indigné il y a quelques années d'un portrait du Monde qui évoquait son couple avec Stéphane Séjourné.
Du couple, il est également question dans un article publié par le site slate.fr, fondé par le camarade Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez vendredi, un papier qui vous a intéressé. On y apprend que contrairement à une idée reçue, la vie en couple reste un modèle dominant.
Oui, en tout cas en France, puisque l'article de Slate s'appuie sur deux études réalisées, l'une par l'INSEE, l'autre par l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. L'analyse combinée de ces travaux montre que la vie en solitaire s'est largement diffusée parmi les moins de 65 ans depuis les années 70, principalement en raison des ruptures qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus précoces. Mais, relève Slate, vivre en couple toute sa vie avec son premier partenaire demeure la situation conjugale la plus répandue en France. Quel que soit l'âge et la génération, cela concerne toujours au moins 57% des hommes et 49% des femmes, car vous le savez, les femmes sont plus souvent veuves. Évidemment, ces statistiques ne valent rien pour ce qui concerne le couple exécutif.
Le mensuel Philosophie, lui, aborde la question des choix de vie en posant cette question essentielle. Comment prendre la bonne décision ? Alors, quelle est la réponse ?
Le magazine livre des pistes, évidemment, puisées dans la pensée des grands philosophes, puisque c'est sa vocation. Pour peu que l'on aime la pensée, c'est en tout cas un dossier passionnant et enrichissant sur l'art et la manière de décider, en revenant à Nietzsche, Aristote ou Schopenhauer. Être à la croisée des chemins est souvent source d'angoisse, écrit Philosophie Magazine. Pour résoudre les dilemmes de l'existence, dans la vie privée comme au travail, peut-être faut-il défricher une nouvelle voie entre le désir et la raison. Pour concilier les deux, le concept de joie, défini par Spinoza, offre une piste. La bonne décision sera une idée adéquate qui s'accompagnera de joie. Pour savoir si Emmanuel Macron a bien fait de virer Elisabeth Borne et de nommer Gabriel Attal, on guettera donc chez le président les signes de réjouissance. Il faut imaginer Sisyphe heureux et il faut imaginer Macron joyeux.
Emmanuel Macron, qui parfois voudrait prendre deux décisions en même temps et les concilier, mais décider, c'est choisir. Merci Hervé Gattegno, à demain pour la lecture des journaux et leur analyse toujours fine. À suivre, Ruth Elkrief et Sophie Obadia, les esprits libres sont sur Radio Classique et ce sera juste après la...